Maintenant, on va parler d'Abu Hanifa donc, et de son khilaf dans la conception de la foi. Premièrement, c'est quoi l'opinion d'Abu Hanifa, rahimahullah, dans l'Iman ? خالف أبو حنيفة رحمه الله وكثير من أتباعه مذهب السلف الصالح في مسمى الإيمان فلم يدخلوا الأعمال في مسماه ولم يجعلوها جزءا منه حيث قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان دون عمل الجوارح. Donc il dit Abu Hanifa il a divergé vis-à-vis des salaf et ceux qui l'ont suivi, beaucoup de ceux qui ont suivi Abu Hanifa dans ce qu'on appelle, retenez bien l'expression, musamma al-iman. Ça c'est important. Abu Hanifa il n'a pas complètement contredit Ahl Sunnah dans l'Iman. C'est simplement dans le mot Al-Iman, qu'est-ce qu'il comporte. C'est juste dans ça qu'Abu Hanifa il s'est trompé. A tel point que certains ulama ils ont dit la divergence entre Abu Hanifa et Ahl Sunnah elle est juste textuelle. Mais dans la réalité ils veulent la même chose. Ça c'est pas vrai, on va voir pourquoi. Mais on comprend par là que la divergence d'Abu Hanifa vis-à-vis d'Ahl Sunnah, on ne va pas dire que ce n'est pas grave, mais elle n'est pas d'une grande importance. Parce qu'elle n'a pas entraîné grand-chose. Parce que Abu Hanifa, malgré qu'il a dit que les actes ne font pas partie de la foi, il a donné beaucoup d'importance aux actes. Et il voyait que la foi, comme lui il l'entend, c'est-à-dire ce qui est dans le cœur, elle n'est pas valable s'il n'y a pas les actes qui suivent. Donc eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les actions, elles ne font pas partie du mot Al-Iman, Moussam al-Iman. Elles ne font pas partie du mot Iman et qu'elles ne sont pas une partie de l'Iman. Et donc il disait, l'Iman c'est Tasdiqul Qalb, donc le fait de croire avec son cœur, wa qawlul lisan, et la parole de la langue, c'est-à-dire les deux attestations, sans les actes du corps. Donc pour eux c'est simplement At-Tasdiq et sans les actions du cœur. Pas de Tawakkul. L'amour d'Allah, la crainte d'Allah, pas ça. Juste At-Tasdiq, le fait de dire je crois dans ton cœur et le fait de dire les deux attestations. Pour eux, c'était ça l'Iman. وقد نص أبو حنيفة على ذلك في وصيته بقوله. Donc là, c'est un texte directement tiré d'Abu Hanifa où il a dit الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. Donc il dit l'Iman, c'est l'acceptation par la langue, donc shahadatay. Et tasdiqun bidjanan, simplement le fait de croire avec ton cœur. Il a juste dit tasdiq, il n'a pas dit ikrar. Souvenez-vous bien du cours de l'autre fois, la différence. وَقَالَ أَيْضًا وَالْإِيمَانُ غَيْرُ الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ غَيْرُ الْإِيمَانُ. Donc il a dit الْإِيمَانُ n'est pas l'action et l'action n'est pas l'Iman. فَعِنْدَهُ أَنَّ الْأَعْمَلُ غَيْرُ الْإِيمَانُ فَجَعَلَ الْأَعْمَلَ هِيَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ هُوَ مَا فِي الْقَلْبِ فَقَدْ. Donc Abu Hanifa il a fait des actions l'Islam et de Iman, ce qui est dans le cœur seulement. Et tout ce qui est les actions, il a dit c'est ça l'Islam. Donc lui il a différencié complètement entre l'Islam et l'Iman. Pour lui ils ne peuvent pas être synonymes.
إلا أنه جعل بينهما تلازما قويا بحيث يستلزم كل منهما الآخر دل على ذلك قوله والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام فهما كالظهر من البطن والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع.
Là, il faut faire très attention à ce qui va être dit. C'est que Abu Hanifa, malgré ça, il a mis ce qu'on appelle un talazum, ça veut dire une dépendance entre l'Iman et l'islam, un lien très fort. Dans le sens où pour lui, maintenant rentrer dans sa définition à lui. Iman, c'est la croyance du cœur et les shahadatayn. Et l'islam, c'est les actions du corps. Lui, il a dit, donc il dit, que l'un, il ne peut pas aller sans l'autre. Et il a dit, ça c'est une parole de lui. Donc on n'est pas en train de mentir sur lui, c'est dans son texte. Et vous le voyez aux éditions Sabil. Ils ont traduit Al-Firq al-Akbar, ça s'appelle. Un livre blanc et bleu comme ça, c'est traduit en français. C'est l'Aqida par Abu Hanifa, et dedans c'est écrit ça. Il dit, l'islam c'est la soumission aux ordres d'Allah. Donc, ça veut dire les actions. Il dit, et dans la langue arabe, on différencie entre Al-Iman et Al-Islam. Cependant, ça c'est toujours Abu Hanifa qui parle. Et écoutez bien ce qu'il dit. il n'y a pas d'islam sans iman. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rentrer dans sa définition à lui. Qu'est-ce qu'il veut dire Abu Hanifa quand il dit il n'y a pas d'islam sans iman? Voilà. Non, parce que pour lui, c'est la foi dans les actes, ça n'existe pas. Quand il dit il n'y a pas d'islam sans iman, islam traduit par action pour lui. Et iman traduit par ce qu'il y a dans le cœur. Ça veut dire que les actions, elles ne sont pas bonnes s'il n'y a pas ce qu'il y a dans le cœur. Ça, on est d'accord. On l'a vu, nous. Que s'il n'y a pas la foi du cœur, la foi des actes, elle ne compte pas. Si quelqu'un ne croit pas au fond de lui, il peut prier autant qu'il veut, ça ne compte pas. Ça, on est d'accord. Mais regardez maintenant ce qu'il dit. Wala imana bila islam. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Il dit pas d'iman sans islam. Ça veut dire quoi ça? Non, mais dis-moi, traduis simplement. Pas d'iman sans islam. Traduis iman et traduis islam selon Abu Hanifa.
C'est les actes, l'islam.
Ouais, il dit l'islam c'est les actions. Voilà. Il dit que donc, comme les actes apparents ne sont pas bons s'il n'y a pas la foi du cœur n'est pas bonne s'il n'y a pas les actes. Donc regardez que même eux, ceux qu'on a appelés Murji'atul Fuqaha, qui ont divergé dans l'iman, ils ont dit que sans actes, la foi est nulle. Elle n'est pas acceptée. Qu'il faut les actes. Et il le dit texto. Il dit la iman bila islam. La iman, ça veut dire la tasdiq wa shahada. C'est-à-dire que la croyance du cœur et l'attestation, elle n'est pas bonne, bila islam, sans la soumission et les actes apparents. Ça veut dire que pour lui, tu ne peux pas être juste un mu'min croyant non pratiquant, comme on dit maintenant. Ça, c'est seulement pour Abu Hanifa. Donc, comment Ahl Sunnah al-Jama'a, hein? Vous avez compris ça? Déjà, Abu Hanifa, qui a divergé dans l'iman et qui n'a pas rentré les actions dans la définition de l'iman, il dit que tu ne peux pas être un croyant non pratiquant, ça n'existe pas. Donc comment Ahl Sunnah al-Jama'a qui ont dit que les actions rentrent dans la foi encore plus? Et il dit, ça c'est toujours sa parole, il dit la foi, donc l'iman et l'islam, c'est comme le dos et le ventre, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Et il dit ad-din, le mot ad-din c'est un mot qui s'applique à l'iman et l'islam, donc ça veut dire le mot ad-din, la religion, ça englobe les deux, les actions et la croyance. Et nous, on va montrer le rad, c'est-à-dire la réplique à ça, à ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est quoi ces preuves, premièrement? Mais si je dis ces preuves, on va rester un peu plus longtemps, parce que je ne veux pas vous dire simplement ces preuves et je rentre chez moi. Si je dis ces preuves, il faut que je vous dise la réplique. Donc, adillatu abi hanifa. Istadallu bidalil al-lugha wa dalil al-aqli wa bi adillatin shar'iyya. Wa qad ajaba anha ulama us-salaf kama yali. Donc, ils ont trois preuves. Ils ont des preuves linguistiques de la langue arabe, ils ont des preuves de la raison et ils ont des preuves religieuses. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est des bonnes preuves. Ça, c'est seulement des preuves. Et les salafs, ils les ont renvoyés. On va voir comment. قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق فوجب أن يكون معناه في الشرع هو الإيمان المعروف في اللغة. واستدلوا على أن معناه في اللغة هو التصديق بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا معناه بمصدق لنا. Donc leur première preuve, c'est, ils disent dans la langue arabe, l'iman, ça veut dire tasdiq, c'est le simple fait de croire, ça veut pas dire les actions, etc. Ils disaient donc dans la religion, il n'y a pas de raison que la signification elle change. Si dans la langue arabe l'iman ça veut dire tasdiq, eh ben dans la religion aussi c'est tasdiq. Et ils ont dit que ils ont prouvé le fait que l'iman en arabe ça veut dire tasdiq avec la parole d'Allah quand ils citent les fils de Youssouf qui ont dit wa ma anta bi mu'minin lana, tu n'es pas croyant en nous. Et donc il a dit croyant ça veut dire musaddiq, simplement croire dans le sens je crois que c'est vrai ce que tu dis. Et comment les ulama ont répondu à ça? Déjà vous, comment vous répondez, hein? Comme ça après quand je vais vous dire ça va mieux rentrer. Comme quoi par exemple? Il y a un exemple là. Parce qu'ils ont dit l'iman dans la langue arabe c'est tasdir. Donc dans la religion, ben, c'est tasdir aussi. Ça normalement déjà ça, vous devrez vous dire c'est faux. Parce que, et vous me donnez un exemple. Comment? Voilà. Parce que dans la langue arabe, un mot il veut dire une chose, et dans la religion il veut dire autre chose, plus. Comme le frère il a dit, al-dhulm en arabe, l'injustice, ça veut simplement dire l'injustice, qu'on connaît tous. Alors que dans le Coran, l'injustice, j'ai pas besoin de vous citer encore les dalils, comme vous connaissez le hadith, al-dhulm, l'injustice dans le Coran, ça veut dire al-shirk. Donc des fois, dans la langue arabe et dans la religion, les significations elles changent. Et l'exemple le plus connu, c'est quoi? Al-salat. Al-salat en arabe, ça veut dire al-dua. Maintenant, est-ce que dans la religion, salat, ça veut dire dua? Est-ce qu'il n'y a que dua dans salat? Salat, yarruku, sujud, qiyam, qira'at al-Qur'an. Tout ça, en arabe, salat, ça ne veut pas dire. Le mot salat en arabe, il ne contient pas toutes ces significations. C'est Allah qui les a rajoutés au mot arabe. Donc les mots arabes, ils ont une signification linguistique et religieuse. Donc le fait que l'iman, même si, et on a vu que c'est faux, si l'iman en arabe, ça voulait dire tasdir, ce qui est faux déjà, on l'a vu, même si c'était vrai, ça ne voudrait pas dire que dans le Coran et la Sunna, ça voudrait dire tasdir. Première chose. Mais je n'ai même pas lu, je vous ai dit directement. Donc la première réponse, c'est de dire que l'iman, premièrement, on l'explique par, dans la langue arabe, par, dans la langue arabe. Non. Non, là, c'est la réponse.
Ah, d'accord.
Par l'iqrar. Et bon, je répète pas tous les arguments. Deuxièmement, que c'est le fait que donc je vais lire en arabe. أن تعريف الإيمان في الشرع يؤخذ من الأدلة الشرعية وليس من المعنى اللغوي فقط. Donc comme il a dit le frère, c'est que la définition du mot iman dans la religion, il se prend pas seulement de la langue arabe, mais il se prend du Coran et de la Sunna. والمعنى الشرعي هو المعنى اللغوي مع ما دلت عليه الأدلة الشرعية. Cette phrase est importante. Il dit la signification religieuse d'un mot, c'est sa définition linguistique plus toutes les significations que lui ont donné les preuves religieuses, le Coran et la Sunna. Comme salat. Salat, ça veut dire dua plus rukua, sujud, qiyam, Qur'an, etc. Parce que le Coran et la Sunna, ils ont rajouté ces significations dans le mot salat.
فمعنى الإيمان في الشرع باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما كما زاد في معنى الصلاة والصوم والزكاة والنصوص دلت على أن الإيمان شرعا يشمل التصديق وإقرار القلب وأعماله وأقوال اللسان وأعمال الجوارح فوجب القول بما دلت عليه النصوص
النصوص مجتمعة. Donc Cheikh dit, ça c'est l'argument que je viens de vous dire, c'est que l'iman dans la religion, dans son sens religieux, il reste selon sa signification linguistique, mais al-shari'a, c'est qui quand on dit al-shari'a? C'est Allah. Al-shari'a, donc c'est-à-dire Allah, dans le Coran et la Sunna, il lui a rajouté des lois, comme il a rajouté, et des significations, comme il l'a fait pour salat, as-sawm, as-zakat. Parce que salat, saum et zakat, dans la langue arabe seule, ça ne veut pas dire ce que nous on connaît. Allah, il a rajouté des significations à ces mots. Et, or, le Coran et la Sunna, ils ont montré que l'iman, ça implique al-tasdiq, al-iqrar, et puis aussi les actions du cœur, et les paroles de la langue, et les actions du corps. Donc on est obligé de dire, comme on a fait pour la salat, que l'iman, c'est tout ça. Et ainsi, on aura agi avec tous les textes. On n'a pas rejeté les textes. Troisièmement, يقولون أن قول اللسان من الإيمان وهو قدر زائد على التصديق وإنما زادوا
c'est un peu effacé. المهم, je me souviens de cet argument.
Quand ils disent que la foi, comment ils ont expliqué la foi, eux? Répétez-moi. Tasdiq seulement. Tasdiq ou al-lisan. Ça veut dire, ils ont dit, c'est tasdiq du qalb et les shahadatin. Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ça? Pour qu'ils disent après que les preuves, que les actes du corps, ils ne font pas partie de l'iman. Voilà. Que shahadatin. Pourquoi ils disent, il ne faut pas rajouter à tasdiq? Est-ce que shahadatin, c'est du tasdiq du cœur? Non, c'est un acte. Donc pourquoi tu rejettes cet acte-là et tu acceptes cet acte-là et tu rejettes les autres? On a vu, il n'y a pas de différence entre les paroles et les actes. Tout ça, c'est un acte. Seulement les paroles, c'est un acte de la langue. Donc pourquoi tu dis « at-tasdiq » seulement, mais aussi en plus, cette parole de leur langue qui est shahadatay. Donc ça veut dire que tu acceptes qu'il peut y avoir des choses en plus que ta cité du cœur. Donc pourquoi tu n'acceptes pas toutes ces choses en plus que le Coran et la Sunna, ils ont cité? Vous avez compris ça? Le fait qu'ils disent que c'est aussi la parole de la langue, ça c'est une faille dans ce qu'ils ont dit. C'est une preuve contre eux, yani.
قالوا إن الإيمان لا يكون إلا بالقلب.
Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont effacées. Je pense que Cheikh il parle de l'murji'a là.
بدليل قوله تعالى, de ceux qui disent que la foi c'est que dans le cœur.
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. C'est-à-dire les preuves qu'on a citées tout à l'heure dans le Coran, comme quoi la foi elle peut être dans le cœur. Et ils ont dit ça prouve que la foi elle est que dans le cœur. Or quand Allah il dit que ce soit dans tout ça, dans les versets du Coran, les hadiths, dans tous les sujets. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite quelque chose sans employer adatul hasr, ça veut dire sans dire seul par exemple comment dire innama ou etc ou illa, est-ce que par exemple il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-hajju arafa, le hajj c'est arafa, il n'a pas dit mal hajju illa arafa, il n'a pas dit le hajj c'est seulement arafa, il a dit le hajj arafa. Est-ce que ça veut dire que le hajj c'est seulement arafa? Le hajj, celui qui fait que arafa son hajj il est bon ou pas? Il n'est pas bon, il y a d'autres arcanes dans, il y a d'autres piliers dans le hajj. Simplement, ça veut dire que Arafa fait partie du hajj et que c'est un des piliers du hajj. Donc le fait qu'Allah ait dit dans le Coran que la foi, que ce qui est dans le cœur, ça fait partie de la foi, il n'a pas dit que c'est que ce qui est dans le cœur. Donc ça exclut pas que d'autres choses aussi, elles peuvent rentrer dans la foi.
Donc il dit Cheikh, والإجابة على هذا أن يقال هذه النصوص دلت على أن الإيمان يكون بالقلب وهناك نصوص أخرى دلت على أن الإيمان قول وعمل فيجب الأخذ بما دلت عليه النصوص جميعا.
Donc Cheikh il dit, comme je viens de vous dire, ces textes que vous dites ils prouvent que la foi elle est dans le cœur, mais il y a d'autres textes aussi qui prouvent que la foi elle est dans les paroles et les actions. Donc pourquoi on prendrait cela et on rejetterait les autres? Au contraire, on prend toutes les preuves. Et ça, c'est ça la tariqat al-sunnah dans tous les chapitres de la religion. C'est qu'ils prennent toutes les preuves. Et ça, c'est pas seulement dans la aqidah, mais ça peut vous sauver dans le fiqh. Parce qu'en France, il y en a... Bon, de toute façon, il n'y a pas qu'en France. Il y en a tout le monde actuellement, dans le fiqh, il est complètement perdu. Cheikh Intel, il a dit ça. L'autre, il a dit le contraire. L'autre, il a dit encore une troisième. Il y a toujours des irtilèves. Mais ce qu'il faut voir, c'est celui qui prend le plus tous les textes. Il faut regarder tous les textes qu'il y a dans la question, la mas'ala, et suit le shirk qui agit par tous les textes. Et notamment le shirk qui aura agi, et ça c'est un seha, à vous de voir si vous l'acceptez ou pas, mais notamment le shirk qui aura agi, non seulement selon tous les hadiths qui concernent la mas'ala, mais aussi avec les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui aura la parole la plus forte dans chaque question du fiqh, c'est celui qui aura regroupé les hadiths et Athar al-Sahaba, les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fiqh. Et c'est lui qui aura toujours la parole la plus forte et qui saura concilier entre les hadiths et les Athar. Et ça c'est la voix des salafs. Ça c'est une grosse parenthèse que je fais, mais je sais qu'on en a besoin dans le fiqh. C'est que les salafs, si vous regardez les usul de l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Abu Hanifa, et ça vous lirez, si vous connaissez un frère arabophone, vous lui dites qu'il vous le lise pour vous dans I'lam al-Muwaqqi'in, un livre d'Ibn Qayyim, An Rabbi al-Alamin. C'est un livre d'Ibn Qayyim sur usul al-fiqh, sur le fiqh en général, les règles du fiqh, tout ça. Il montre c'était quoi les usul des quatre imams. Et vous verrez que chacun des quatre imams, il prenait Athar al-Sahaba, ce qui a été un peu mis de côté de nos jours dans le fiqh. Or, les quatre imams, par exemple, on a demandé à l'imam Ahmed, est-ce que l'homme a le droit de couper sa barbe? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed? Directement, il a dit Kana ibn Omar ya'khudhu ma dun al-qabda. Ça veut dire que pour lui, ce qu'il faisait Abdullah ibn Omar, c'était une preuve. Et donc, il faut respecter cette règle. C'est que ce qu'ils font les sahaba dans le fiqh, c'est une preuve. Simplement avec trois conditions. La première condition, c'est que ce qu'il a ramené le sahabi, la fatwa du sahabi ou l'acte du sahabi dans le fiqh, elle ne contredise pas un hadith authentique. Contredise pas de façon totale. C'est pas toi apparemment ça contredit alors tu rejettes. Il faut essayer de concilier. Comme l'imam Ahmed dans cet exemple, il a dit Ibn Omar prenait sa barbe et coupait avec sa main et coupait ce qu'il y avait en dessous. L'homme il lui a répondu, mais qu'est-ce que tu fais du hadith du prophète? A'ful liha, laissez pousser vos barbes. Donc l'homme, il avait compris une contradiction. Et lorsqu'il y a une contradiction entre le hadith du prophète et la parole du compagnon, tu jettes la parole du compagnon. C'est normal, parce que nous, on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'imam Ahmed ? Il lui a répondu une réponse qui signifie qu'il n'y avait pas de contradiction entre ce qu'il a fait le prophète et ce qu'il a dit le prophète et ce qu'il a fait le compagnon. Il lui a dit « Hakadha yakun al-i'fa ». Il dit ainsi, parce qu'il lui a dit « Il faut que tu prennes ta barbe comme ça ». Après l'homme, il lui dit « Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laissez pousser vos barbes ». Un hadith dont on pourrait comprendre que même si ta barbe elle arrive à tes chevilles, il faut que tu la laisses pousser. L'imam Ahmed, il lui a répondu quoi ? Il lui a dit « C'est ainsi qu'on fait pousser nos barbes ». C'est-à-dire que le prophète nous a ordonné de laisser pousser nos barbes et le compagnon nous a montré comment. Donc toujours allier et chercher au maximum l'opinion du shir qui va au maximum allier les hadiths et les athars. La deuxième condition, c'est que le compagnon, il n'y ait pas un autre compagnon qui les contredit. Par exemple, Ibn Abbas, il dit blanc et Abdullah ibn Omar, il dit noir dans une question où on ne connaît pas de hadith. Là, on ne peut pas prendre la fatwa d'un des deux parce qu'il n'y a pas un sahabi dont on a le droit de prendre une fatwa plus que l'autre. Et aussi, comment on comprend ça ? C'est que, est-ce qu'il est possible que l'ensemble des sahaba ils connaissent pas la vérité sur un point ? Pas un sahabi, mais tous les sahaba. Est-ce que c'est possible ? C'est impossible, parce qu'Allah il nous a ordonné de les suivre. Et j'ai pas besoin de vous réciter les versets, vous les connaissez tous, sur le fait de suivre les sahaba. Donc, la vérité, elle est forcément chez les sahaba. Donc, si un sahabi, il dit une parole, et les autres, ils se taisent. Le sahabi, par exemple, il dit bleu. Et les autres, ils disent rien. Qu'est-ce qu'on a comme opinion chez les sahaba sur la question ? Bleu et rien. Donc, c'est quoi la vérité ? C'est bleu. Si c'était blanc ou jaune, est-ce que ce serait possible que ce soit blanc ou jaune alors que personne ne l'a dit dans les sahaba ? C'est impossible. Donc quand il y a un sahabi qui dit une fatwa ou un groupe de sahaba et que les autres sahaba ne les contredisent pas, leur fatwa, on doit l'accepter. Il ne faut pas être salafi dans la aqida, le minhaj et tout, et pas être salafi dans le fiqh. Ça c'est quelque chose de... Il faut que vous lisiez Alam al-Muwaqqi'in et les livres des anciens, et vous lisez par exemple Al-Risala de Shafi'i, ils l'ont traduit en français. Le premier livre qui a été écrit sur Usul al-Fiqh, Al-Risala, ils l'ont traduit. Vous lisez dedans ce qu'il dit sur les sahaba. Et par exemple, la mas'ala, est-ce qu'on a le droit de toucher le mus'haf quand on est en état d'impureté ? Les ulama, ils divergent. Le verset, il veut dire ça. Le verset, il veut pas dire ça. Il n'y a pas de hadith. Casse-toi pas la tête. Abdullah ibn Omar, Salman al-Farisi et Omar ibn al-Khattab, ils ont fait la fatwa comme quoi, quand tu n'es pas en état de pureté, tu n'as pas le droit de toucher le mus'haf. Et personne ne les a contredits parmi les sahaba. Toi, tu suis les sahaba un point, c'est tout. Est-ce qu'ils ont sorti ça de leur tête ? Et s'ils avaient sorti ça de leur tête et qu'ils se soient trompés avec Ijtihad, les sahaba et les autres, ils n'auraient pas montré la vérité ? C'est possible ça ou pas ? C'est impossible que les sahaba ils se taisent les uns vers les autres. Ça voudrait dire que les sahaba en entier, on n'aurait pas la vérité chez eux dans cette question. Si la vérité c'était que tu as le droit. Ça, c'est un exemple de question. Et la troisième condition pour accepter les fatwas des sahaba dans ce qui concerne le fiqh, c'est qu'il y a un imam des salafs qui ait fait la fatwa qui est jugé en fonction de ce athar. Athar, c'est l'équivalent du mot hadith, mais pour les sahaba. Et ça, c'est une condition aussi bien dans les athar que dans les hadiths. Si par exemple, tu as un hadith qui dit que telle chose est halal ou haram, mais aucun des salafs n'a dit ce qui correspond à ce hadith, t'as pas le droit de faire cette fatwa. Parce que si toute la communauté des salafs ils sont arrangés, ils sont mis d'accord pour laisser ce hadith authentique, c'est pour une raison. Et leur consensus, c'est une preuve. Et tu peux pas toi venir 1400 ans après et prendre un hadith que eux tous ils ont délaissé. Donc c'est ça les trois conditions. Et ça, c'était une petite parenthèse parce que je sais qu'il y en a dans les frères, c'est la pagaille. Cheikh Athamin dit ça, Cheikh Moubaz dit ça, Cheikh Albani dit ça, je suis perdu, je sais plus quoi faire. Toi, reviens aux preuves. C'est les hadiths et ce qu'ils ont fait les sahaba. Et cramponne-toi à ça. Ensuite, je crois qu'on va arrêter là quand même. Bon, continuons ça la fois prochaine, inchallah. Sahaba, mais que les sahaba eux-mêmes étaient en divergence, eh ben les anciens imams, ils prenaient quand même les affaires des sahaba et ils essayaient de filtrer et d'en tirer la plus forte. Par rapport à tout ce qu'ils connaissaient des règles de la religion, ils prenaient des fatwas des sahaba, ce qui correspondait plus aux règles de la religion. ou alors ils avaient d'autres façons de fonctionner. Par exemple, si c'est Abu Bakr et Omar qui ont fait la fatwa, et d'autres sahabas plus jeunes ou de moindre importance qui ont fait la fatwa opposée, eh ben, ils rejetaient la fatwa des jeunes sahabas et ils prenaient la fatwa d'Abu Bakr et Omar. Donc même quand il y avait une contradiction dans les sahabas, ils avaient quand même des moyens de retirer la vérité parmi leurs fatwas. Et avant l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i et les quatre imams, avant eux, déjà les salafs, les tabi'in et tout, ils faisaient les fatwas selon les fatwas des sahabas. Et il y a des exemples de Ibn Abbas où des fois il connaissait pas un hadith dans une question, il disait qala Abu Bakr, qala Omar. C'est-à-dire Abu Bakr a dit et Omar a dit. S'il était devant un salafi maintenant, salafi lui dirait moi Abu Bakr et Omar, ce qu'ils ont dit dans le fiqh, je m'en fiche. Moi je crois que ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Ibn Abbas, non, les salafis ne fonctionnaient pas comme ça. Ils prenaient à la fois les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les athars des sahaba. Et si vous regardez Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, ben vous verrez combien de masa'il où Ibn Taymiyyah il n'y a pas de hadith, donc il fait la fatwa directement selon ce qu'il trouve des sahaba. Et ça va vous sortir du khilaf dans plein de questions. Et ce qui va vous sortir du khilaf dans les questions, c'est quoi? Bon, premièrement, il faut apprendre l'arabe. Mais l'arabe, en vérité, qu'il faut apprendre pour chercher un minimum dans le fiqh, la vérité, c'est que c'est pas extraordinaire. Un des mohim, c'est que vous compreniez l'arabe. Et dans la grammaire, ajloumia, ça suffit. Yani, 10 fois, ça suffit. Yani, en vérité, dans le fiqh, ça va pas être souvent des questions de grammaire et tout. Celui qui a fini les 4 tomes là, de Médine, voilà, alhamdoulilah, c'est déjà. En grammaire, ça suffit. Après, c'est que du khilaf. Et c'est des khilaf, yani, ça rentre dans la spéculation. Mais on a mis le A parce qu'en fait, on voulait pas mettre le I parce que le OU était pas assez beau. C'est des trucs. Yani, Allah Musta'an. C'est de l'approfondissement, et les salafs, certains salafs, ils blâmaient l'approfondissement dans la grammaire. Comme il a été rapporté de l'imam Malik et beaucoup d'imams, ils blâmaient ceux qui s'approfondissaient trop dans la grammaire. Donc il faut apprendre l'arabe, il y a un minimum, au moins pour comprendre ce qu'il dit, Cheikh Al-Thaymin, etc., Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Albani, dans leur livre, tout simplement. Après, la deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est Mustalah al-Hadith. Ça, c'est un des trucs aussi qui va te sauver et te sortir du khilaf. C'est quoi Ulum al-Hadith en général, les sciences du hadith, c'est savoir différencier un hadith authentique d'un hadith faible. Et ça, c'est le plus dur à apprendre en vérité dans celui qui veut lire le fiqh sans s'attacher à une école. Celui qui veut apprendre le fiqh le plus authentique. C'est ça le plus dur. Ça, c'est un peu long. Mais au moins savoir c'est quoi un hadith sahih, un hadith authentique. Et la vérité, celui qui se concentre et qui apprend, qui lit quelques livres ou qui écoute quelques cours, ça ne va pas prendre 10 ans. Et alhamdoulilah, c'est pas non plus Allah, grâce à Allah, c'est pas, la science, c'est pas non plus quelque chose d'inaccessible. Et maintenant, il y a des CD, même si un frère il veut, moi j'en ai, de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec des gros livres sur l'essence du hadith, qui sont lus de A à Z par le shir, et il les explique. Tu finis un de ces livres, déjà tu as des outils. Tu sais ce que c'est Sahih al-Bukhari, Sahih ibn Khuzayma, tu sais ce que c'est un hadith sahih, un hadith munqati', tu sais comment un hadith il peut renforcer un autre hadith, etc. Après connaître tous les bonhommes, ça Allahu alam, mais ça sera pas notre ressort. Mais toi, tu t'aides des ulama qui ont écrit dans le hadith, comme Cheikh al-Albani, Ibn Hajar, tous ces ulama. Et la troisième chose que tu dois apprendre, c'est usul al-fiqh. C'est-à-dire les bases, ce qu'on appelle les bases du fiqh. Usul al-fiqh, c'est quoi? C'est une science qui t'enseigne comment, à partir du Coran et de la Sunna, tu dis que telle chose elle est halal ou haram ou interdite ou etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que usul al-fiqh, c'est une science de, bah, bien sûr, de très grande importance. Mais ce qui t'est nécessaire dans cette science, c'est peu de choses. Et si tu prends tous les livres d'usul al-fiqh, parce que ceux qui sont accaparés cette science après l'époque des salafs, ce sont Ahl al-Kalam, les spéculateurs, parmi Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira. Et si vous prenez les gros livres de Usul al-Fiqh, il y a plein de ce qu'on appelle Al-Mabahith al-Kalamiyya. C'est beaucoup d'années de spéculation. Et des fois, ils sont arrivés à des conclusions à laquelle les salafs, ils n'étaient pas arrivés, qui divergent des salafs. Exemple, vous lisez dans Usul al-Fiqh, ils disent يُعْمَلُ بِالْعَامِ حَتَّى يُجَدْ لَهُ مُخَصِّص. Ça veut dire que quand tu as un texte d'aspect général, âme, tu l'appliques tant que tu lui trouves pas un autre texte particulier qui le rétrécit dans un cas précis. Ils disent tu prends le texte général et t'as pas besoin de chercher s'il y a un texte qui rend ce texte général plus précis dans tel ou tel cas, et tu agis avec ce texte. Or les salafs c'était l'inverse. Et un s'il trouvait un texte d'aspect général, il le délaissait jusqu'à ce qu'il trouve son interprétation chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on se relève du recours, on ne met pas les mains sur la poitrine. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la signification du hadith, nous avons été ordonnés, nous les prophètes, de poser nos mains, de poser la main droite sur la main gauche pendant la salat. Ça, c'est un texte d'aspect général ou pas? C'est général, parce que la salat, on ne sait pas ce que ça veut dire. La salat, c'est quand tu es debout, quand tu es en soujoud, quand tu es en recours. Donc, si on suit usul fiqh tel que c'est dans les livres, on dit, khlas, nous on prend ce hadith et on l'applique tel quel. Donc, dès que je suis dans la salat, je mets mes mains comme ça. Après, quand je fais le recours, c'est autre chose, parce qu'on nous a appris que le recours dans le hadith, c'est les mains sur les genoux. Quand je me relève, là les hadiths ne disent plus rien. Eh ben, j'utilise ce hadith d'aspect général et je fais ça. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, quand il n'y a pas un hadith où c'est précisé, j'utilise le texte général et je fais ça. Or, les salafs, si vous lisez par exemple, comme ceux qui ont beaucoup ramené ça, c'est Ibn Taymiyyah, comment il s'appelle, Al-Shatibi, un imam d'Andalousie, aussi l'imam Ahmed, allez, des imams d'Al-Sunna. Ils ont expliqué qu'un texte général comme ça, tu ne l'appliques pas tant que tu n'as pas son interprétation telle qu'elle et en agissement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou chez les sahaba. Donc ce texte d'aspect général où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand tu es dans la salat, tu mets tes mains tu mets tes mains comme ça, il faut que son interprétation, c'est pas toi avec ta tête tu la sors. Si tu la regardes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il l'a appliqué et les sahaba. Et tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a appliqué que dans le premier qiyam, avant le rukwa. C'est pour ça qu'il y a un Wa'il ibn Hujr dans un hadith authentique, il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit le prophète quand il rentrait dans la salat, il levait ses mains en disant Allahu Akbar. Après il mettait ses mains sur la poitrine, il a décrit. Après il levait ses mains, après il faisait le rukwa, après il se relevait, il levait ses mains et après il faisait sujoud. Il n'a pas dit il est reposé. Pourtant, il a bien répété à chaque fois qu'il levait ses mains, il le répète. Parce que quelqu'un, il pourrait me dire, bah ouais, mais peut-être il l'a pas dit parce que c'est évident. Mais la même chose, les mains, c'est évident et pourtant il l'a répété. Donc, une adoration précise, un acte d'adoration, on le tire pas d'un texte d'aspect général. On le tire d'un texte précis qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou un compagnon, il a fait tel quel. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, si on commence comme ça, on va prendre la parole d'Allah qui dit, Ya ayyuha alladhina amanu, uzkurullah dhikran kathira. Ou vous qui avez cru, rappelez-vous d'Allah, mentionnez Allah beaucoup. Ça, c'est général ou pas général? Ça explique pas comment et comment on a. Donc moi, je viens avec mes amis et on prend des chapelets et on fait tous ensemble. Et si quelqu'un il vient me dire qu'est-ce que vous faites, c'est quoi? Ben je dis ben Allah il dit wazkurullah dhikran kathiran. J'emploie un dalil qui a un sens global. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire celui d'en face? Il va me dire, mais non, mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils faisaient là cette image que tu as donnée à ce verset, cette surah, on dit en arabe, cette forme, est-ce qu'ils lui ont donné? Donc pourquoi tu te dis ça dans ce verset et tu te le dis pas dans ça? Donc il faut que. Ça, c'est le genre, ce que je voulais dire par là, c'est un exemple que vous pouvez trouver dans Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, c'est ceux qui ont beaucoup écrit dedans, les livres de base, c'est par exemple Abu Hamid al-Ghazali, etc. Ou des savants, des Mu'tazila. Donc en vérité, si vous voulez des usul fiqh vraiment purs, vous prenez Ar-Risala de l'imam Shafi'i. Et c'est pas un texte en chinois, c'est pas inaccessible, c'est pas dur. Et elle est traduite en français. Vous prenez I'lam al-Muqayyin d'Ibn al-Qayyim. Et voilà, et ça vous suffit. Après, tout le reste, c'est beaucoup de kalam. Même Ibn Hazm, ou alors Al-Shawkani, ça c'est l'école Al-Zahiriya. Al-Zahiriya c'est pareil. Même si on dit c'est Al-Hadith, etc., parce que c'est des gens qui font le fiqh à partir du Hadith, mais c'est pareil. Ils ont ramené des règles, des trucs du Al-Kalam qui n'étaient pas présents chez les salafs. parmi ces trucs qu'ils ont ramené, le fait de ne pas prendre des sahaba. Alors que ça, quand on regarde les copains et les salafs, ils prenaient des sahaba. Donc le mieux, c'est vous regardez Ar-Risala de l'imam Shafi'i et tous les textes que vous trouvez dans Usul Fiqh d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim. C'est ça le mieux, yani, si vous voulez être sur un beau minhaj dans le fiqh. Et donc c'est ça, et ça d'où je tire cette. C'est d'une fatwa de Sheikh Ibn Baz où les gens ils lui ont demandé comment on fait pour apprendre le fiqh avec toutes ces divergences. Sheikh a dit vous apprenez les outils, vous apprenez l'arabe tel que ça suffit, la quantité qui suffit, vous apprenez les sciences du hadith, la quantité qui suffit, et usul fiqh, la quantité qui suffit. Et après, tu peux ouvrir. Et même après, quand tu lis dans le fiqh, tu prends pas n'importe quel livre du fiqh. Tu prends des livres de fiqh où tu sais que celui qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui se base sur le Coran, la Sunna, etc. Tu prends le Majmu'a Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tu prends At-Tamhid d'Ibn Abdel Barr, et tu lis Al-Majmu'a de l'Imam Nawawi, où il te raconte quelles sont les paroles des écoles. Parce que nous, à notre époque, on dit beaucoup, il y a un khilaf. Cheikh Ibn Baz dit ça, et Cheikh Al-Albani dit ça. C'est pas ça un khilaf. Un khilaf, tu regardes ce qu'il y avait avant. Eux, ils ont fait que répéter une opinion qui a été dite avant. Il faut que tu regardes c'est qui les premiers qui ont dit ça. Le fiqh, c'est pas celui qui veut chercher étudier le fiqh, c'est pas Cheikh Al-Albani il a dit et Cheikh Ibn Baz il a dit. Cheikh Al-Albani et Ibn Baz sont des savants qui t'avancent l'ilm. Mais si tu veux l'ilm, et eux-mêmes ils te disent l'imam Malik a dit ça, l'imam Ahmed a dit ça. Donc toi, si tu veux le fiqh lui-même, tu regardes qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed. Et ça, il ne faut pas croire que c'est des trucs comme certains frères ont des idées, que c'est des trucs ringards, les quatre écoles. D'où tu sors le fiqh si ce n'est pas des quatre écoles? Toi-même, tu prends le Coran et la Sunna et t'en sors du fiqh. C'est pas comme ça. Il faut que tu regardes qu'est-ce qu'ils ont dit les savants du fiqh d'avant. Et les savants du fiqh, c'était qui? Malik, Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa et d'autres aussi. Soufiane al-Thawri, Ishaq ibn Rahawai, tous ces salafs. Il faut que tu regardes les salafs d'abord. Pourquoi? Parce que aussi des fois tu vas te rendre compte que, par exemple, une parole qui peut être quelque chose de répandu à notre époque, parmi les frères de Al-Sunnah, tu te rends compte que chez les salafs, c'était un ou deux qui le disaient et tout le reste, ils disaient pas ça. Comme la mas'ala de toucher le mus'haf quand t'as pas le wudu, si tu vois maintenant, la plupart des frères ils disent que t'as le droit. Si tu reviens à l'époque des salafs, ils disaient tous que t'avais pas le droit. Donc ça aussi, c'est un des bénéfices de revenir à ce qu'ils disaient les salafs. Abu Hanifa, Ahmed, Al-Shafi'i et Malik, ils disent que t'as pas le droit. D'où ils l'ont tiré? Les quatre, ils avaient un hadith daif, ou les quatre, ils ont fait une fatwa, ils se sont trompés, etc. Même si c'est vrai que les quatre, ils peuvent être d'accord sur un point et avoir tort. Mais s'ils ont tort, alors forcément, tu auras d'autres imams, comme Ishaq ibn Rahway, Soufiane al-Thawri, Abu Hanifa, les élèves d'Abu Hanifa, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, Abu Yusuf, tous ces imams-là, l'Auza'i, Layth ibn Sa'd, tous ces imams, ils auront donc, tu trouveras chez eux l'autre opinion. Al-Muhim, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu saches, il faut que tu apprennes, qu'on apprenne les sciences multiples, et qu'on revienne au livre où on trouve les opinions des salafs. Et là, par rapport à ce que tu auras appris comme outil dans la science, eh ben, tu choisis l'opinion qui te semble la plus forte. Et si vraiment tu n'arrives pas à faire ça, là, Allah il dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc tu appelles le shir à qui tu fais le plus confiance et que tu estimes qu'auprès d'Allah, tu pourras dire à Allah que tu l'as choisi parce que tu as fait ton effort de le choisir parce que tu pensais que c'était lui. Tu as fait tout ce que tu pouvais et tout ce que tu pouvais, c'était de le choisir lui parce que tu penses que c'est lui qui aura le plus de raison dans la question. Tu l'appelles et tu lui poses la question, tout simplement. Et si on applique tout ça, on va moins se casser la tête. Et après aussi, qu'est-ce qu'on tirera de tout ça? Respecter les divergences. Toi, tu as appris comme ça, l'autre, le frère, il a appris comme ça, c'est pas t'arrives, c'est plus un salafi. Ou alors tu regardes dans une mosquée, tu vois un frère, tu te demandes, est-ce que c'est un salafi? Je vais regarder comment il prie. Et le frère, il fait pas la pause, ça y est, c'est pas un salafi. Alors que la pause, il y a des ulama, ils ont dit, tu la fais pas. Même si bien sûr, la sunna, c'est de la faire. Mais il y a des ulama, ils ont sorti des explications, ils ont dit tu la fais pas. Ou alors pour un hadith qui dit que celui qui se relève, il se relève sans les mains directement. Il y a des ulama qui ont utilisé ce hadith. Et tu peux être un salafid min ahl sunnah wal jama'a et avoir cette opinion. Donc c'est pas toi t'arrives et ça y est, que ce que tu connais toi c'est la vérité. et tout ce que les autres y font c'est faux, et tu commences à les allumer à cause de ça. C'est pas ça. Reviens au salaf et tu verras, il y a beaucoup de divergences.